Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu. Matthieu 27. J'ai deux, trois choses à vous mentionner rapidement. Certaines sont très, très importantes. Ceux qui sont abonnés à la liste de courriels, vous avez su pour le décès du père de Madeleine Bérubé. Notre sœur a perdu son père dimanche dernier, si je ne me trompe pas. Et puis, on était au salon, plusieurs d'entre nous, vendredi. Elle a confiance que son père est allé dans la présence de Dieu. Parce que son père avait vraiment reconnu en Jésus-Christ son sauveur personnel, et donc elle est en paix avec son éternité, elle a une joie. Sa mère est chrétienne aussi, et donc j'aimerais qu'on puisse prier pour Madeleine, qu'on puisse prier. Je ne pense pas que Madeleine est ici, je ne l'ai pas croisée. Elle est là? Elle est où Madeleine? Salut Madeleine. J'aimerais qu'on puisse prier pour Madeleine, la pression de sa maman, la santé dans l'adaptation, tout ça, c'est beaucoup d'émotions, et sa mère est quand même âgée, et... plus on vieillit, plus les émotions à gérer dans un corps vieillissant, ça a toutes sortes de conséquences sur la pression, sur le cœur, tout ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier. Avant d'aller dans la prière, je tiens à vous mentionner aussi, c'est pas tout le monde qui le connaissait, c'est pas quelqu'un de l'Assemblée, mais Robert Goulet, qui a été guitariste à l'époque avec Richard Toupin, est décédé jeudi matin. Alors, je sais que ça n'a pas encore circulé partout, là, ceux qui sont avec moi sur Facebook, vous l'avez vu, mais Robert est décédé, donc, jeudi matin, ça faisait déjà, je crois, 2 mois après la pastorale provinciale. Il a, si je me souviens bien, il a fait un arrêt cardiaque et ça l'a occasionné éventuellement un ACV. Et il ne s'est jamais vraiment remis de ça. Et donc, il est décédé jeudi de cette semaine. Alors, si vous voulez prier pour la famille, prier pour son épouse, suivez les courriels. Ce qu'on m'a dit, c'est que le service devrait avoir lieu jeudi. Et en hommage à Robert, jeudi soir, il devrait y avoir un concert de louange. C'est la meilleure manière d'honorer Robert, c'est de louer le Seigneur Jésus avec de la musique. Alors, c'est ça. On va aller tout de suite dans la prière, d'accord? Seigneur Jésus, on voudrait t'amener notre sœur Madeleine. Merci Seigneur pour la foi de ses parents. Merci parce que ton esprit est venu révéler, Seigneur, à leur cœur ton évangile. Dans ta grâce, tu as ouvert les yeux de leur cœur afin que probablement ce qu'ils avaient entendu depuis longtemps devienne enfin intelligible, Seigneur. Qu'ils puissent être touchés par la grâce que tu nous as fait de mourir sur cette croix pour nos péchés. Et je te rends grâce, Seigneur, pour cette paix qui est dans le cœur de Madeleine, cette confiance et dans le cœur de sa mère. Père, on aimerait t'amener Madeleine, t'amener sa maman, Seigneur, t'amener la famille aussi. Seigneur, je te prie de faire entrer l'Évangile davantage encore dans cette maison, dans cette famille. Viens te servir, Seigneur, de ces moments difficiles, de ces moments douloureux pour amener l'Évangile dans la maison, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir le témoignage de Madeleine et de sa mère auprès du reste de la famille, qu'à travers leurs paroles, à travers leurs attitudes, à travers leur foi, Seigneur, certains puissent saisir que c'est plus qu'une foi aveugle qui dit « tout va bien se passer », il est en paix maintenant. C'est à cause de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour la santé de la maman de Madeleine. Viens, Seigneur, lui donner une paix qui surpasse toute intelligence, celle que toi seul peux donner. Elle n'est plus jeune, Seigneur, et toutes ses émotions, tous ses bouleversements, ces grandes tristesses qu'on peut vivre et qu'on vit dans un deuil, Seigneur, peuvent être très dures pour le corps. Et donc, je te prie de lui donner une paix, Seigneur. Qu'elle soit émerveillée de voir le repos que tu lui donnes à travers ça. Tant d'années de mariage, tant d'années de compagnonnage, Seigneur. Seigneur, on aimerait te prier pour la famille de Robert Goulet. Robert, Seigneur, c'est un homme charmant, c'est un homme qui reflétait Jésus-Christ dans toute sa beauté, dans toute sa douceur. C'est voir son sourire, Seigneur, le voir venir vers nous, c'est voir Christ venir vers nous, littéralement. Et je veux te bénir pour son témoignage à travers toutes ces années, pour son service, pour son attachement à l'Évangile. Je veux te bénir, Seigneur, parce qu'il a été un fidèle serviteur jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, il est dans ta présence, Seigneur. Il ne pleure plus, Seigneur. Oh, sois béni. Mais on veut te demander de venir consoler son épouse, Seigneur. Robert était jeune. Viens accorder ta grâce à son épouse, à tous ceux qui sont autour d'eux, Seigneur. Viens les aider à s'attacher à toi et que la famille de Dieu soit plus présente que jamais autour d'eux. J'aimerais te demander de venir nous bénir ce matin alors qu'on se penche quelques instants sur ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce qui s'est passé à cette croix, sur cette croix et ce que tu veux nous dire à nous, tes disciples, Seigneur, maintenant. Le modèle que tu as été, le sacrifice que tu as offert, viens, Seigneur, nous aider à saisir comment tu veux nous inspirer à vivre présentement. Et Seigneur, que toute personne présente au milieu de nous qui n'a pas été saisie par le sacrifice de Christ puisse voir la majesté et la beauté de ce que tu as accompli là, Seigneur, à travers les coups, à travers les souffrances, à travers le sang qui coulait, Seigneur. Il y a une œuvre belle et glorieuse que tu as accomplie pour la purification de nos péchés, pour la paix de nos âmes. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Oui, Jean-Guy. Ça, quand Jean-Guy s'approche à moins quart, ça me fait peur. Oui, je vais demander à l'Église de prier. Merci. Oui. Oui. J'ai parlé avec François ce matin. Si vous voulez prier cette semaine pour Robert Guimond, okay, plusieurs d'entre vous, vous le connaissez, c'est un frère qui a fréquenté l'Assemblée pendant plusieurs années. Il a eu un accident pendant qu'il était en train d'aider Roland Villeneuve, je m'excuse, à construire sa maison. Et puis, en tout cas, il a fait une chute. Alors, fracture du bassin, poumon perforé, puis des côtes cassées. J'ai parlé avec François Turcotte, son neveu. L'état est stable, donc il n'y a pas d'inquiétude, mais Robert n'a quand même pas 12 ans ou 20 ans, en fracture du bassin, tout ça, là, on vous demanderait de prier pour le rétablissement de Robert, d'accord? On peut juste être là avec eux dans la prière. Merci. Eh bien, on va lire le passage. Matthieu 27, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Lorsque j'étais en train de réfléchir avec mon ami Oscar, qui ne voudrait pas que je le nomme, sur l'affiche qui allait présenter un peu la prédication de cette semaine, ce qui ressort très, très, très fortement de ce passage, c'est la moquerie qui est omniprésente, qui est constante dans le texte. D'accord? Le ton qui ressort de ce texte-là tout le long, c'est ce ton de moquerie. La scène qui se produit devant nos yeux lorsqu'on lit ce passage, c'est une scène qui est scandaleuse. Et 2000 ans d'histoire, 2000 ans de christianisme nous ont souvent amenés à perdre de vue le fait que tout ça était choquant. Et donc, si vous trouvez ça choquant, vous devriez trouver la lecture de ce passage-là beaucoup plus choquant. Parce que ce qui est illustré ici, c'est en deçà de la réalité historique. De loin. De loin. Très rapidement, la crucifixion était une des manières les plus dégradantes et les plus souffrantes de mettre quelqu'un à mort à l'époque. Il était interdit par la loi romaine de faire mourir par crucifixion un citoyen romain. Ce n'était pas un problème avec Jésus, il était juif, il n'était pas citoyen romain. Donc, il n'y avait pas de problème, on pouvait se servir de cette méthode-là. Mais c'est simplement pour dire que pour mettre à mort un criminel citoyen romain, pour qu'il soit crucifié, il aurait fallu que l'empereur lui-même dise, « Celui-là, vous le crucifiez. » Personne dans l'Empire, à part l'empereur, avait le droit de décider de faire crucifier un citoyen romain. Parce que c'était une mort trop souffrante, beaucoup trop dégradante. C'est une mort qui n'en finissait plus. C'était une mort où tu te vidais progressivement de ton sang et tu asphyxiais littéralement. D'accord? Sans rentrer dans tous les détails, probablement que vous avez déjà entendu l'explication, mais ils étaient pendus afin d'asphyxier et ils devaient se pousser avec leurs jambes pour pouvoir libérer le diaphragme et respirer. Et c'est ça le principe. Donc, on asphyxie jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable, on pousse fort, 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 on prend un grand respire, on se repend par les bras. Et si on avait besoin de mettre fin à ça plus rapidement, on cassait les deux tibias, cassait les deux jambes, plus de possibilité de se lever, il reste juste les muscles, aucune structure osseuse. On accélère un petit peu le processus. Maintenant, pour les Juifs, c'était pire encore. Pour les Juifs, ça allait plus loin que ça encore. Pour les Juifs, voir un individu pendu au bois, cela signifiait que Dieu lui-même, non seulement les hommes, non seulement la justice humaine, mais Dieu lui-même avait maudit cet être-là. On lit dans la loi de l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Je vous lis le passage. Deutéronome 21, 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ainsi, celui qui était pendu au bois pour mourir, tu le sors rapidement, parce qu'il a été maudit par Dieu. Et tu ne veux pas le garder au milieu de toi, au milieu de ton pays. Alors, voyez-vous, quand les Juifs sont là et voient celui qui disait qu'il était le Fils de Dieu pendu au bois, ils ont la loi de Moïse derrière dans leur pensée qui dit, le Fils de Dieu, Dieu l'a maudit. Voyez-vous à quel point c'est un menteur et un prétentieux? Dieu l'a rejeté. Dieu l'a maudit. L'idée même que Dieu aurait pu permettre que son fils se retrouve là était totalement inacceptable à leurs yeux. J'ai découvert il y a quelques années en parlant avec un ami, on développait une relation, un ami musulman et moi, et j'ai découvert que dans sa culture et dans sa religion, l'idée même, exactement la même pensée, à ses yeux, c'était impossible que Jésus de Nazareth, parce qu'il voit en lui un grand prophète, c'était impossible qu'il soit mort sur une croix parce que Dieu n'aurait jamais fait ça à un de ses prophètes. Alors quand les Juifs sont là et voient Jésus sur la croix, il est un objet de mépris parce que c'est inconcevable dans leur pensée que Dieu ait pu faire ça à son fils, s'il est le fils de Dieu. Dieu l'a maudit, la preuve c'est qu'il ne l'a pas sorti de cette situation et il a permis qu'il se retrouve là. Maintenant, le passage est rempli d'ironie. Parce que l'évangile de Matthieu commence en nous disant que Jésus est le roi des Juifs. Tourne avec moi au début de l'évangile de Matthieu. Dans les premiers chapitres, on arrive avec ces mages qui viennent. Et Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient. On ne sait pas trop comment ils ont vu tout ça. C'est assez extraordinaire et mystérieux. Arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alors, une des premières choses que Matthieu nous dit en écrivant son évangile, en écrivant cette lettre-là, il nous dit, « Je vais vous raconter l'histoire du roi des Juifs. » Lorsqu'on arrive dans Matthieu 27, et qu'il va y avoir toute cette séquence où il va avoir un écriteau qui dit qu'il est le roi des Juifs, les soldats vont se prosterner devant lui en lui disant, en le saluant comme on saluait César, « Ave César, salut roi des Juifs! » Il y a cette ironie qui est présente constamment. Vous savez, on dit parfois que la vérité sort de la bouche des enfants. Dans ce cas-là, la vérité sort de la bouche des moqueurs. Et donc, il y a cette ironie tout le long du passage. Tous ceux qui viennent se moquer de Jésus et le mépriser sont en train de, pratiquement, de parler à la place de Dieu. C'est presque des prophètes. Ils sont en train de se moquer de lui, déclarent des choses, prétendent des choses, s'en servent pour rire de lui et cet écriteau qui était au-dessus de lui, évidemment. Je veux dire, c'était un mépris de la part de Pilate qui regarde les Juifs, qui dit, « Tiens, regardez la domination romaine. Voici votre roi. » Et donc, l'ironie dans ce passage, c'est que ces gens qui sont en train de mépriser Jésus, qui sont en train d'être violents, d'être durs avec lui, disent beaucoup plus de vérité qu'ils n'auraient jamais pu le concevoir. Et ces soldats qui se sont agenouillés devant lui ne réalisaient pas qu'à ce moment-là, ils étaient en train de s'agenouiller, non devant un homme. Et vous voyez, ils l'ont traité comme si c'était une poupée. Hein? Ils l'ont déshabillé, ils l'ont rhabillé, ils l'ont frappé. Ils ont joué avec lui. Jésus est totalement passif. Et une fois qu'ils ont habillé leur petite poupée, ils se sont agenouillés devant lui, ne réalisant pas qu'ils étaient en train de s'agenouiller devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Matthieu veut nous faire voir toute cette ironie dans le passage. Si tu passes ta vie à te moquer de Jésus-Christ, l'ironie dans cette histoire, si tu parles de lui en disant « Ah oui, on sait, c'est le Fils de Dieu. Ouais, c'est le Sauveur. Hein? On fête le petit Jésus. » L'ironie dans cette histoire, c'est qu'un jour, selon les Saintes Écritures, tu vas courber le genou devant lui. Et tu vas reconnaître celui que tu as méprisé, de qui tu t'es moqué. Il y avait énormément de vérité dans ce que les moqueurs et les gens méprisants apportaient. Les soldats se sont agenouillés devant le vrai roi, Jésus était seulement un roi serviteur et à ce moment-là, son trône était la croix. L'écriteau qui était au-dessus de sa tête disait la vérité. Les passants dans les versets 39 et 40 qui étaient en train de l'injurier, regardez avec moi Matthieu 27, 39, 40. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! » Et donc Matthieu est en train de nous dire que c'était probablement des gens qui étaient là au moment où Jésus a comparu devant le Sanhédrin puis qu'on a apporté ses accusations en disant, « Jésus a dit qu'il allait détruire le temple et le reconstruire en trois jours. » Et on a vu déjà dans les dernières semaines que ce n'était pas exactement ça que Jésus avait dit. Mais Jésus avait dit en effet, si vous détruisez le temple, je le rebâtirai en trois jours. Et Jésus parlait du temple de son corps. Alors les passants qui sont là et qui font allusion à toute cette question-là ne réalisent pas que le temple de Dieu, l'endroit où Dieu habitait parfaitement, c'est dans la personne de Christ. Ce temple-là est en train d'être détruit, il est pendu sur la croix. Voyez-vous, le temple dans l'Ancien Testament, c'était simplement un endroit où Dieu était présent et où on pouvait rencontrer Dieu. C'est ça le temple. Lorsque Christ était sur la terre, l'endroit où la personne où tu pouvais rencontrer toute la présence de la divinité, c'était Jésus-Christ. Ce temple-là est pendu au bois et il est en train d'être détruit et dans trois jours, il va ressusciter. Les passants disaient beaucoup plus vrai qu'ils ne le pensaient en faisant ça. Tous ces gens insultaient Jésus. Et en même temps, un autre élément qu'on voit dans le passage, c'est qu'ils vont amener la dernière tentation pour Jésus. Si vous êtes familier avec l'évangile de Matthieu ou avec les tentations que le diable a amenées à Jésus lorsqu'il était dans le désert, il lui proposait de changer le plan de Dieu. Et il disait, si tu es le fils de Dieu, viens nous montrer ta gloire. Si tu es le fils de Dieu, sors-toi des mauvaises situations. Si tu es le fils de Dieu, manifeste ta puissance. C'est exactement ce que cette foule va faire. Alors, en même temps qu'ils sont en train de dire la vérité, ils sont comme l'ultime tentation que le diable apporte à Jésus en disant, sors de cette situation-là. Maintenant, les chefs religieux disent à Jésus, et personnellement, c'est vraiment le verset qui m'a touché cette semaine énormément. Verset 42. Là, ce sont les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens qui se moquent de lui. Et ils disent, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Mais vous savez quoi? Même dans ces paroles-là, ils étaient en train de dire beaucoup plus vrai qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Est-ce que Jésus-Christ, celui qui avait fait tous ces miracles, avait la puissance de descendre de cette croix? Il vient juste de le déclarer quelques instants avant. Il n'avait qu'à invoquer une légion d'anges, serait venue, on aurait arrêté tout ça là. Tous ceux qui étaient en train de se moquer de lui seraient tombés par terre en train de pleurer devant leur bêtise, leur stupidité. Ce serait écrasé devant sa gloire. Rappelez-vous, lorsque Jésus, on a entrevu la gloire de Jésus-Christ. Ses disciples étaient émerveillés. Jésus aurait pu le faire. Mais Jésus ne pouvait pas se sauver lui-même et nous sauver. Alors Jésus pouvait sauver les hommes, mais il ne pouvait pas se sauver lui-même. Ou il aurait fallu qu'il renonce à nous sauver. Pour que Christ puisse nous sauver, il fallait qu'il renonce à se sauver lui-même. C'est vrai, Jésus pouvait sauver les autres, mais pas lui-même s'il voulait accomplir le plan de Dieu. S'il était descendu de cette croix, tous les hommes auraient connu la gloire de Christ dans toute sa majesté et tous les hommes auraient été damnés pour l'éternité. Pour l'éternité, nous aurions reconnu que Christ est glorieux et on l'aurait maudit en face, damné pour l'éternité. Mais pour que le salut nous soit offert, Christ ne pouvait pas se sauver lui-même. Il devait rester sur cette croix et aller jusqu'au bout de son agonie. Je pense qu'une des choses que Matthieu est en train de nous dire ici, je m'adresse à tous ceux qui sont chrétiens, je pense qu'une des choses que Matthieu est en train de nous dire ici, si nous voulons suivre Jésus-Christ, ça va être la même chose dans notre évangélisation personnelle. Ça va être la même chose lorsqu'on va vouloir ouvrir la bouche pour Christ et annoncer Jésus-Christ. Vous ne pourrez pas amener vos proches avec vous au ciel et garder votre confort, éviter les moqueries, éviter les railleries. Vous ne pourrez pas le faire. Et si vous décidez de sauver votre vie ici-bas, si je décide de me taire alors que je sais que tonton, puis grand-père, puis mon père, puis mes voisins, puis mes collègues de travail me trouvent tellement nono d'écrire sur Facebook « Dieu est vivant ». Et si je décide juste de me taire, de ne pas m'afficher, d'éviter tout ça, pour qu'ils disent « Ah oui, il est chrétien, mais c'est un gars cool, tu sais, dans le fond, il est quand même correct ». On n'aborde pas trop ça, on évite toutes ces moqueries, on évite tous ces moments où les gens nous regardent en disant « Ouh, je pensais que tu étais intelligent, toi. Tu as quand même fait des études à l'université. Tu crois à ça? » Si on évite tout ça, puis on leur laisse juste savoir qu'on est chrétien, vous ne pourrez pas les amener avec vous au ciel. Si vous désirez que vos proches, les gens autour de vous, soient sauvés, il va falloir que vous passiez par votre croix. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples, non? Il dit, chargez-vous de votre croix, suivez-moi. Il va falloir que tu ouvres la bouche. Alors, il y a tout l'aspect de la moquerie, mais il y a tout l'aspect du confort aussi. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que Jésus n'était pas très confortable sur la croix? Mais il va falloir que vous sortiez, que je sorte de mon confort. Si je veux que mes voisins d'en face me voient vivre ma vie chrétienne, il va falloir que je les invite à manger chez nous. Ouais, mais tu ne veux pas inviter mes voisins Yannick chez vous. Non, non, non. Tu ne veux pas les inviter. C'est ça. Reste dans ton confort. Reste dans ton confort, puis laisse-les aller en enfer. Jésus ne pouvait pas nous offrir le salut et se sauver lui-même. On parlait de bouffe pour tous tout à l'heure. On ne pourra pas gagner ces gens-là à l'Évangile en restant dans notre confort. On doit choisir entre les deux. Je sauve ma vie ici-bas, mon confort, mon bien-être, et je les laisse se damner, ou je suis Jésus-Christ. J'accepte les moqueries, j'accepte de mourir à moi-même, j'accepte de renoncer à ma vie parce que j'attends comme Christ la gloire éternelle. J'attends comme Jésus la résurrection de mon corps pour entrer dans sa gloire et j'accepte de le suivre. Un dernier mot. Verset 42. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Dans une espèce d'hypocrisie complètement débile, ces gens-là qui ont vu Jésus faire plein de miracles, qui ont vu Jésus faire des choses extraordinaires, veulent essayer de nous faire croire que tout d'un coup, s'il avait fait un ultime miracle, ils auraient cru en lui. Jésus a donné sa vie pour le salut de ton âme. Qu'est-ce que tu attends de plus pour croire en lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus que ça? Mon père n'a pas donné sa vie pour moi, ma mère ne l'a pas faite, mes enfants ne l'ont pas faite, mon épouse ne l'a pas faite. Il n'y a personne qui est mort à ma place. Jésus-Christ est en train de mourir sur la croix. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus pour toi pour qu'enfin tu arrêtes de résister et que tu crois en lui? Il est mort pour toi. Crois en lui. Accepte son sacrifice sur la croix pour tes péchés et décide de le suivre, de marcher à sa suite. On va prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'avais la tête partout cette semaine. Tellement de la difficulté à me concentrer sur ce que tu as fait là, sur cette croix pour moi, Seigneur. Cette semaine, Seigneur, j'étais comme ailleurs et la croix me semblait être un événement passé, Seigneur, loin de moi dans un livre. Quelque chose qui n'a aucun lien avec ma vie personnelle, Seigneur. Je te le confesse. Je te l'ai confessé, je pense, toute la semaine. Toute la semaine, j'avais tellement de difficultés à être bouleversé par la beauté de ce que tu as fait là, Seigneur Jésus. Je te bénis pour les chants, pour la louange, pour le repas du Seigneur. Pour ce mémorial, pour cette église, Seigneur. Seigneur Jésus, tu étais là sur cette croix et je veux à mon tour me charger de ma croix, Seigneur. Je veux renoncer à ma vie. Seigneur, j'accepte de mourir pour que d'autres soient sauvés. J'accepte de mourir à mon confort. J'accepte de mourir à ma petite vie privée. J'accepte, Seigneur, de mourir à mon image devant les collègues, devant les amis, devant les voisins, devant la famille, Seigneur. Quelle image avais-tu sur cette croix remplie de sang, méprisable, maudit de Dieu? Je veux te suivre, Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles ce matin ici qui attendent je ne sais pas quoi, Seigneur, que le ciel s'ouvre et qu'un ange descende, qu'ils soient frappés par la foudre de Dieu pour croire en toi, Seigneur. Dans ta grâce, chuchote-leur à l'oreille. Je suis mort pour toi sur cette croix, pour le pardon de tes péchés. Sois béni, Jésus. J'ai hâte d'aller rejoindre Robert, Seigneur, d'aller rejoindre le Père de Madeleine dans ta gloire, d'être libéré de ma bêtise, de ma folie, de mes péchés, d'être libéré de ce monde de souffrance, de déception, Seigneur. J'ai hâte de te voir avec mes yeux, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.